France Culture.
Une valeur du texte que probablement les chanteurs du 19e siècle n'accordaient pas.
Oui, j'ai voulu exister. Certainement pour beaucoup de raisons, comme tous les adolescents, pour échapper à l'emprise familiale.
La comédienne Jeanne Moreau, en 1970, et le musicologue Jacques Bourgeois, en 1978. Voilà deux voix intéressantes. Vous aurez remarqué que la couleur de leurs voix respectives, plus précisément leur timbre, est très différent l'un de l'autre. Sauriez-vous dire si ces voix sont bien placées ?
Qui m'a dit cette chose ?
C'était vraiment entre moi et ma famille.
Quand vous prenez la parole en public, savez-vous si votre voix est bien placée et surtout comment la placer ? Essayez cette petite expérience. Ouvrez très légèrement la bouche et inspirez fortement. Vous allez normalement sentir un air frais qui passe par le palais et descend jusqu'à la gorge. C'est ce chemin que doit emprunter idéalement l'air expiré pour placer votre voix. C'est le même processus que le bâillement, à la différence que pour notre petite expérience, la bouche doit juste s'entrouvrir. Essayez maintenant autre chose. Imaginez votre plat préféré devant lequel vous faites ce son de satisfaction. Vous allez normalement sentir en le faisant des vibrations dans la lèvre supérieure. Vous pourrez ensuite faire la même chose avec un N. Et cette fois, vous devrez sentir davantage les vibrations à la base du nez. Amusez-vous à refaire l'exercice avec ces deux semi-voyelles, en jouant avec des notes différentes. Vous aurez donc placé votre voix. Et pour cela, vous avez orienté les ondes vibratoires produites par les cordes vocales vers des amplificateurs du son qu'on appelle résonateurs, et qui vont également modifier le timbre de la voix.
Ma parole.
Je suis si heureuse.
Saison 5. Comment trouver sa voix ?
Je me disais, mais...
Avec Hervé Patin.
Quelque chose qui n'est pas normal.
Réalisation, Félix Levacher.
Tu cherchais ta voix.
Épisode 1. Placer sa voix.
Qui ne souhaite pas avoir une belle voix ? Et encore mieux, une bonne voix, celle qui touche, et plus encore, celle qui aide à convaincre.
La lourde responsabilité.
Les voix que vous allez entendre dans les différents épisodes qui suivront vous paraîtront soit intéressantes, soit agaçantes peut-être.
Cette sorte d'antinomie, d'antithèse.
Et puis Saint-Domingue.
Mais vous allez découvrir ce qui les caractérise et comment vous pouvez améliorer la vôtre. À partir des extraits que vous allez entendre dans ce podcast, vous allez pouvoir tirer des leçons, des meilleurs exemples à suivre et à ne pas suivre.
Des ombres et a dû pour cette raison.
Trouver sa voix, ça n'est pas une affaire si simple, vous le verrez dans les 5 épisodes de ce podcast. C'est un travail à la fois technique et psychologique. Technique parce qu'on peut exercer sa voix pour l'améliorer, l'embellir. Et psychologique parce qu'il convient parfois de comprendre quelle est l'origine, voire les origines, de notre propre façon de s'exprimer. Trouver sa voix pour l'aimer, mais aussi trouver sa voix pour s'aimer. C'est une ambition qui mène à l'équilibre entre qui vous êtes réellement et qui vous pouvez être. Mais pour trouver sa voix, il est déjà important de savoir la placer. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce premier épisode. Placer sa voix, c'est lui donner plus de richesse, d'intérêt. Et c'est essentiel, car la voix doit faire appel à la conscience et à l'inconscient de l'auditoire. Ces ondes vibratoires qui sortent de notre bouche, que notre cerveau va convertir en signaux électriques et que nous interprétons comme des sons, eh bien, elles ont le pouvoir de se muer en caresses, en frissons, ou parfois en irritation. Dans les épisodes qui suivront, j'aborderai davantage le point de vue technique que psychologique, qui demande, vous l'aurez compris, une considération plus intime, plus personnalisée. Je suis Hervé Patta, professeur de technique vocale et oratoire, ancien élève du maître Jesse Williams, baryton basse du New York Opera. Je suis dépositaire d'une méthode d'amélioration de la voix parlée, également auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, et anciennement maître de conférences à Sciences Po Paris. La voix, c'est quoi ? C'est du son et du bruit. Et il est essentiel de considérer que le cerveau de chacun de vos interlocuteurs préférera du son à du bruit. Ce qui veut dire, concernant le langage, que les voyelles sont à préférer aux consonnes. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans le troisième épisode. Mais allons plus loin. L'être humain, où qu'il soit dans le monde, a besoin de rythme et de mélodie. C'est un universel. Les mélodies sont traitées par l'hémisphère droit et les rythmes par l'hémisphère gauche. Donc, l'idée de rapprocher la voix parlée de la voix chantée pour enchanter son auditoire est tout à fait pertinente. Si les mots ont un sens, les sons ont un pouvoir.
He changed laws, but he also changed hearts. For the people of South Africa, for those he inspired around the globe, Madiba's passing is rightly a time of mourning and a time to celebrate a heroic life. But I believe it should also prompt in each of us a time for
Quand Barack Obama prend la parole lors des funérailles de Nelson Mandela le 10 décembre 2013 en Afrique du Sud, il fait l'unanimité. Sa voix fait probablement partie des belles voix, bien qu'on ne puisse avoir qu'une définition subjective de la beauté. On peut marquer son goût pour une voix plus ou moins aiguë, plus ou moins forte ou plus ou moins timbrée. Mais la roussité ne s'oppose pas à la pureté, comme la puissance ne s'oppose pas à la douceur. Elle se préfère.
As was true here, it took sacrifice, the sacrifices of countless people, known and unknown.
Tout au long de son discours, la voix de Barack Obama est chaude et il la projette comme s'il établissait un lien matériel entre lui et le public massé dans le stade. Ses phrases sont assez courtes parce qu'il lit son discours, mais son débit est fluide et il arrondit ses voyelles, ce qui contribue à la musicalité de ses paroles. Inexorablement, sa belle voix touche la foule. Et si nous faisions à présent la différence avec une bonne voix, en écoutant celle qui suit ?
Monsieur Le Pen ne monte pas tellement dans son parti politique, mais ses idées se vendent bien. Et elles se vendent tellement bien qu'elles sont de plus en plus reprises. Alors là, je commence à avoir la trouille, de nouveau. Parce que si même Monsieur Le Pen est à 12%, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? On voit les copies. Les Le Pen Canada Dry qui commencent à venir et à faire eux aussi des gros scores.
Cet extrait qui date de 1990 nous montre que Bernard Tapie avait une bonne voix. C'est-à-dire celle qui convient à la situation. Il était capable d'adapter son timbre, son débit ou encore son intensité dépendamment de la circonstance.
Il est plus pro-européen du tout.
Et son expressivité était parfois surprenante.
Dans un pays où ses idées.
Bernard Tapie pouvait facilement passer d'une voix douce à une voix tonitruante.
J'ai de nouveau peur, c'est pour ça que je veux comprendre.
Il n'était pas prévisible. La seule chose à laquelle on pouvait s'attendre, c'était d'assister à un spectacle.
Je vous assure, j'ai entendu la même chose.
Une voix captivante fait passer des émotions, des sentiments, et elle inspire des réflexions. Elle peut également provoquer des réactions positives ou négatives, d'avoir en quelque sorte un pouvoir d'induction qui peut s'exercer indistinctement en public ou face à face. La voix doit servir le sens pour le renforcer. Et Bernard Tapie, avec sa force de conviction, en était certainement conscient. On peut dire qu'il jouait avec elle, parce qu'il était souvent comme incarné. Mais s'il jouait avec elle, peut-on dire que sa voix était normale, naturelle ? Celle que vous allez entendre l'est sans doute davantage.
Je vois bien que la situation des femmes a changé, mais je vois qu'il reste un écart très grand entre la situation des femmes et la situation des hommes. Ce sexe social, il nous colle à la peau. Et je le sens, monsieur, là, en face de vous. Je vais vous en donner un exemple. Nous ne sommes pas armes égales. Si je bafouille, si je me trompe, si je cite des chiffres faux, que dira-t-on après cette émission ? On dira, ben voyons, bien sûr, les femmes, on ne peut pas compter sur elles.
Françoise Giroud était journaliste, écrivaine et femme politique. et elle est un bon exemple de voix naturelle qu'on écoute avec attention.
Mais si vous, vous bafouillez, si vous n'êtes pas très bon, que dira-t-on ? On dira, ben ce monsieur Fouillet, il n'était pas formidable ce soir.
Dans cet extrait de 1970, où elle expose les contraintes des femmes dans la société, elle sait d'instinct placer sa voix, la moduler et la rythmer. Elle n'en joue pas comme pouvait le faire Bernard Tapie. Sa voix est naturelle parce qu'elle est le reflet intime de sa personnalité. Elle est sans artifice. François Giroud avait cette capacité à donner naturellement du sens à ses arguments. Un contraste total avec la voix naturelle que vous allez entendre maintenant.
Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer, s'il en était encore besoin. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est.
Dans cet extrait, Édith Cresson s'exprime à l'Assemblée nationale en 1991. Et sa voix paraît constamment détimbrée, comme perchée à l'aigu, lui conférant ainsi un côté irritant. Elle s'évertue à pousser sa voix qu'elle ne maîtrise pas. Si elle avait su la placer, et que ses muscles expirateurs, notamment le diaphragme, avaient joué leur rôle de soutien du son, sa voix aurait été tout aussi naturelle, mais bien différente, plus attractive. Et les critiques comme les caricatures auraient été probablement moins malveillantes à son égard. Avec les quatre extraits que vous avez entendus, vous aurez compris qu'une voix peut être belle, bonne, naturelle, voire les trois à la fois dans le meilleur des cas. Mais le plus important est que votre expressivité paraisse la plus naturelle possible. Et cela commence par savoir placer sa voix. Pour placer votre voix sans la fatiguer, utilisez le phonème nye en y associant les voyelles. Par exemple, nya, nye, ni, nyo, nu. Laissez libre cours à votre imagination et vocalisez sur des mélodies simples. Un autre exercice vous aidera à étendre votre tessiture pour pouvoir moduler votre voix plus facilement. Je rappelle que la tessiture est l'étendue d'une voix depuis le grave jusqu'à l'aigu sans la forcer. Je vous propose donc l'exercice que j'appelle le yo-yo. Il s'agit de proférer un haut d'étonnement en partant d'une note grave confortable pour monter en glissant vers l'aigu sans forcer la voix. Attention, n'envisagez pas les sons du grave vers l'aigu, mais plutôt projetez vers l'avant. Essayez ensuite de dépasser vos limites. Etc. De cette façon, vous mobilisez votre larynx et vous étirez les cordes vocales sans les traumatiser. Exercez-vous régulièrement, mais ne cherchez pas à pousser votre voix au-delà des limites raisonnables. Je suppose que vous avez déjà envie de vous entraîner. En tout cas, je l'espère. Et maintenant que vous savez comment placer votre voix, je vous invite à écouter dans le prochain épisode pourquoi la gestion respiratoire est indispensable à une bonne élocution.